Voilà. Du coup, bonjour à tous. C'est moi qui ai le plaisir de pouvoir vous faire la prédication ce matin. Et puis, on attend juste le PowerPoint. Bon, c'est pas grave, je peux déjà commencer, et puis ça va aller, je pense. Aujourd'hui, on va parler du texte de Daniel dans la fosse aux lions. Et avant de parcourir le texte, j'aimerais juste parler en fait d'une valeur qui m'a vraiment interpellé quand j'ai lu ce passage. C'est la notion de fidélité. Et en regardant en fait, dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire en fait la fidélité? Il y a vraiment deux notions qui m'ont interpellé. C'est la notion de dévouement et la notion d'attachement. Et si on lit la définition ensemble, la fidélité, c'est la qualité d'une personne qui est dévouée et attachée à quelque chose ou à quelqu'un. Et dans la notion de dévouement, moi j'interprète vraiment comme finalement c'est prouver qu'on est dévoué à quelque chose ou à quelqu'un par des actions concrètes. Donc pour moi, dans la notion de dévouement, c'est vraiment cette idée de prouver qu'on est dévoué à quelqu'un ou à quelque chose en faisant des choses. Et puis la deuxième notion, c'est la notion d'attachement. Et si on lit dans le dictionnaire la définition de qu'est-ce que ça veut dire être attaché, c'est qui est lié par un sentiment d'amitié, une habitude, un besoin à quelqu'un ou à quelque chose. Et quand on essaie de comprendre ce que ça veut dire finalement l'attachement, je le vois plus comme un positionnement. Et dans le texte de Daniel qu'on va voir ensemble, on va voir qu'il sera fidèle en fait à Dieu jusqu'au bout, et il y aura tant cette notion d'attachement à Dieu que cette notion de dévouement qui va transparaître au niveau du passage. Et sans plus tarder, j'invite Vanessa et Marilyn qui vont lire en fait le passage de Daniel.
Donc c'est Daniel 6, versets 1 à 25. Darius le Mède s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Ces hommes dirent : « Nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. » Puis ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent « Roi Darius, puisses-tu vivre toujours ?» Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre dieu ou homme que toi, roi, sera jetée dans la fosse aux lions. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écris le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié, comme la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Trois fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Alors ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu.
Puis ils se présentèrent devant le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. « N'as-tu pas écrit une interdiction d'après laquelle toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à un autre, Dieu ou homme que toi, roi, serait jetée dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit « Cet ordre est aussi sûr que la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi « Daniel, l'un des exilés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, roi, ni de l'interdiction que tu as écrite, et il fait sa prière trois fois par jour. » Le roi fut très attristé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ses hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent « Sache, roi, que d'après la loi des Mèdes et des Perses, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. » Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi dit à Daniel « Que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, veuille te délivrer. » On apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y apposa l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires, afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit sans manger, sans faire venir de danseuses devant lui et sans parvenir à trouver le sommeil. Le roi se leva tôt le matin avec l'aurore et se précipita à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda « Daniel, serviteur du roi vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions ?» Daniel répondit au roi « Roi, puisses-tu vivre toujours ? Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, je n'avais rien fait de mal. » Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva aucune blessure sur lui parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que les accusateurs de Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. Avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse, les lions les attrapèrent et brisèrent tous leurs os.
Merci beaucoup. Alors c'est un texte qui est très connu, je pense qu'on a tous entendu parler quand on était petit de Daniel dans la fosse aux lions. Et moi, la première chose qui m'a interpellé en fait dans ce texte, et je pense que depuis tout petit ça m'a aussi interpellé, c'est d'où est-ce que ça sort cette fosse aux lions en fait ? Qu'est-ce que c'est cette histoire de condamner une personne lorsqu'elle a peut-être fauté, comme une espèce de mise à mort et de la condamner aux lions ? Et en faisant en fait des recherches, j'ai trouvé en fait qu'il y a une expression latine qui est « damnatio ad bestias ». Et en fait, c'est le fait de condamner une personne aux bêtes féroces. Donc ça pouvait être, alors c'est un petit peu glauque, mais ça pouvait être soit pour torturer une personne ou soit pour simplement lui donner la mort. Et c'était en fait une méthode qui était appliquée notamment chez les Romains. On a plusieurs exemples de personnes qui ont été condamnées à mort dans des amphithéâtres qui se faisaient en fait dévorer par des animaux sauvages. Et alors c'est assez brutal, mais c'était une pratique qui a été utilisée contre les personnes qui avaient mis à mal l'ordre public. Donc ça pouvait être des prisonniers de guerre, ça pouvait être des meurtriers, mais aussi des chrétiens, et on sait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont été mis à mort comme ça dans les amphithéâtres à cause de leur foi. Et si on revient par rapport à notre texte, donc en fait, durant le temps de Daniel, donc durant cette période-là, c'était habituel chez les rois, notamment d'Égypte, d'Assyrie et puis de Perse, de capturer en fait des animaux sauvages. Donc ça pouvait être des lions, des panthères, des taureaux ou même des éléphants. Et puis on les parquait comme dans des espèces de grottes aménagées ou dans des enclos. Et puis ça pouvait arriver du coup qu'on condamne une personne à être tuée du coup dans une fosse ou dans cette grotte. C'était quelque chose qui n'était pas hyper courant, mais on sait que ça existait. Et puis le fait que c'était quelque chose qui n'était pas courant, ça montre vraiment le caractère extraordinaire de la mesure et le fait que Daniel a vraiment été condamné à mort dans cette fosse aux lions. Et on va voir par la suite que Dieu est intervenu pour le sauver, mais c'est vraiment quelque chose qui était très fort. C'était vraiment la peine capitale, le fait de mourir. Et puis, pour illustrer vraiment un peu le contexte, parce que des fois j'ai l'impression qu'on lit un peu ce texte, puis on se dit simplement, Daniel il a été mis dans la fosse aux lions, et puis ensuite, Dieu est intervenu, il est ressorti, et puis des fois on a l'impression que c'est un peu comme, comme un espèce de zoo où il y avait des lions, et puis voilà. Et puis on ne se rend des fois pas forcément compte de la violence, du fait d'être condamné comme ça dans une fosse aux lions. Et on va juste projeter une vidéo qui illustre un peu de manière humoristique la condamnation aux bêtes. Alors.
Puis. Si tu réussis, je te couvrirai d'or. Mais si tu échoues, je te jetterai au crocodile.
Ah. Ils ont mangé le magnon ?
Voilà, un peu de manière humoristique pour montrer. Alors là, c'était une brebis, et sûrement, c'était pas forcément comme ça, mais de vraiment montrer que, en fait, Daniel aurait dû mourir, en fait, dans cette fosse au lion. Maintenant, pour parler un peu du contexte par rapport à ce qu'on a lu, donc ce que Vanessa et Marine ont lu, simplement, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que donc Daniel, ça fait environ plus de 60 ans qu'il a été déporté. On a la ville de Jérusalem qui a été détruite par les Babyloniens, le temple qui a été détruit. Et puis, il avait à l'époque environ 17-18 ans lorsqu'il a été déporté et amené en Babylonie. Il était de son noble et il a été en fait formé à une culture qui était complètement différente de la sienne. Il a été formé pendant 3 ans aux arts, aux sciences, à la culture et à la langue babylonienne afin de servir plus tard le roi. Même son nom a été changé, donc nous on parle de Daniel, mais dans la culture babylonienne, il était appelé Belshazzar. Et on voit vraiment que ça a été un profond déracinement que Daniel a vécu. Et c'est un homme d'expérience. Donc dans le passage, il a environ 80 ans. Donc je pense ça fait déjà un long moment qu'il est en Babylonie et qu'il connaît déjà bien l'environnement dans lequel il est. Et puis, je pense que par rapport à ce qu'il a vécu, alors oui, c'était terrible, le fait d'être condamné dans la fosse au lion, mais il a déjà vécu, je pense, ou il a déjà vu des vertes et des pas mûres par rapport à tout ce qu'il a vécu en Babylonie. Si on se rappelle, dans le chapitre 1, il a refusé de manger les viandes qui étaient consacrées aux idoles, et par sa désobéissance, Dieu l'a béni, et puis il a été amené ensuite à la cour du roi, et puis ça lui a permis en fait de gagner davantage de responsabilités dans son service pour le roi. Plus tard aussi, Daniel s'est fait remarquer en expliquant des rêves au roi Nabuchodonosor. Si on se rappelle, c'est dans le chapitre 2. Et puis, en fait, il a continué finalement, malgré le fait qu'il était confronté à une culture qui était complètement différente de la sienne, même aussi contre ses valeurs, il a continué en fait d'être fervent et d'être fidèle à Dieu. Et puis, à un moment donné, on a le roi Nabuchodonosor qui va mourir. Et puis, on aura une période en fait, de bouleversement profond au niveau de l'Empire babylonien. Et Daniel, qui servait en fait, à la cour du roi, il était toujours, on va dire, proche du pouvoir. Et il va juste être le témoin de toutes ces choses qui vont se passer. Et donc, c'est un peu des choses assez aussi glauques. Mais je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui vont être du coup nommées rois, ensuite qui vont être assassinées. Et pendant une période, il y aura vraiment de l'instabilité qui va faire en fait, que le... il n'y aura pas vraiment un roi qui sera sûr et qui sera présent, mais il y aura vraiment une succession de beaucoup de personnes qui vont être nommées puis ensuite assassinées. Et puis à un moment donné, on a aussi une nouvelle puissance qui va arriver, c'est les Perses et les Mèdes qui vont en fait renverser les Babyloniens et prendre le pouvoir. Et dans notre passage, en fait, on se situe vraiment au tout début du règne de Darius qui va en fait régner, et c'est vraiment la fin d'une dynastie, et une nouvelle dynastie qui est les Perses et les Mèdes. Donc le premier élément qui ressort de ce texte, c'est le complot. Le complot qui est orchestré contre Daniel. Et si on regarde au verset 3 et 4, il est dit donc, que Darius place au-dessus d'eux, donc il va nommer 120 satrapes, et au-dessus d'eux, il va nommer 3 ministres auxquels ces satrapes devaient rendre compte pour que les intérêts du roi soient préservés. Daniel était l'un de ces 3. Or, il se montrait plus capable que les 2 autres ministres et tous les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit extraordinaire. C'est pourquoi le roi songeait à le mettre à la tête de tout le royaume. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que non seulement il va être nommé donc, juste en dessous du roi parmi les 3 ministres du royaume, mais en plus, il est pressenti comme être potentiellement la personne qui serait numéro 2 pour tout le royaume. Et c'est ça, en fait, qui va nourrir une jalousie et créer finalement ce complot contre lui. Pour un peu comprendre comment était organisé le royaume, donc ces satrapes dont on parle dans le texte, on pourrait donner différents mots, on peut dire que c'est des administrateurs, c'était des protecteurs du roi, donc leur but c'était en fait de représenter les intérêts du roi. Donc ça veut dire qu'on avait un immense empire qui était grand, et puis on avait en fait les satrapes qui étaient répartis sur le territoire. Et leur but, en fait, c'était de s'assurer que l'ordre était bien fait, que toutes les populations étaient soumises au roi, et puis de veiller aussi à ce que les taxes étaient bien payées et ça entrait bien dans les caisses du roi. Et puis Daniel, de son côté, il était au-dessus de ses satrapes, donc son rôle à lui, c'était de vérifier que le travail était bien effectué par ses satrapes et de s'assurer en fait à ce qu'ils n'allaient pas chercher à abuser de leur position ou bien à essayer de faire de la corruption ou à faire passer leurs intérêts avant les intérêts du roi. Et puis donc ce complot va être mis en place. Et là, je voulais vraiment souligner en fait, le côté pervers de ce décret qui a été mis en place, parce qu'en fait, on voit qu'il était tordu en fait, dès le départ. Le seul but de ce décret, c'était le fait de faire tomber Daniel. En fait. Alors que normalement, un décret, c'est un acte juridique qui a pour vocation, on va dire, de concerner toutes les personnes. Et là, il visait uniquement en fait, à faire tomber Daniel. Si on lit au verset 8 et 9, donc, il est dit... Donc tous les ministres du royaume, les préfets, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs réunis en conseil ont décidé qu'il fallait publier un édit royal pour mettre en vigueur une interdiction stricte. Selon cet édit, quiconque, pendant les 30 jours qui suivent, adressera une prière à quelque dieu ou à quelque homme que ce soit, si ce n'est à toi, Majesté, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, Majesté, établis cette interdiction et signe le décret afin qu'il soit irrévocable, conformément à la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Et en fait, les choses qui ne vont pas par rapport à ce décret, premièrement, c'est le fait qu'ils disent que tous les ministres se sont réunis en fait, pour établir cette loi. Or, à aucun moment, Daniel a été consulté par rapport à ce projet de loi. Et puis, vu le nombre, donc, comme je vous l'ai dit, il y avait 120 personnes qui ont été nommées par le roi, plus encore 3 ministres. Et en fait, vu le nombre de personnes qui ont été nommées, c'était impossible. On a un si peu de temps de réussir à se mettre d'accord pour faire signer ce décret. Et puis, on peut aussi être étonné par la validité en fait, du décret. Il n'est valable que 30 jours. Or, normalement, au niveau du droit, quand on fait un acte juridique, ça doit durer dans le temps, pas que 30 jours. Et c'est aussi étonnant parce que pour faire connaître aussi ce décret, l'empire était tellement grand qu'en 30 jours, ça aurait été impossible de faire connaître l'existence de ce décret à toutes les populations. Donc on voit encore que la mise en place de ce décret est complètement basée sur quelque chose qui est faux et erroné. Et puis, ce décret, en fait, il est aussi complètement à l'encontre aussi de ce que la loi des Mèdes demande. Donc plusieurs fois dans le texte, il est parlé de cette loi des Mèdes et des Perses qui est immuable, qui est irrévocable. Et en fait, lorsqu'un décret en fait, était signé chez les Perses et chez les Mèdes, le but, c'était vraiment de faire en sorte que le roi consulte un maximum de personnes avant que le décret ait été signé. Et en fait, là, on se rend compte qu'il a juste été fait dans la précipitation. Quand on lit le texte, on se rend compte qu'ils ont juste un peu poussé le roi à vite, rapidement signer le décret. Et on se rend compte que ça ne respecte pas du tout ce principe de consulter un maximum de personnes. Donc, dès le début... Ce décret, il était faux et il était mal intentionné. Et puis, moi, ce qui m'a vraiment frappé en fait, dans le texte, c'est l'attitude de Daniel. Et je dirais, la première chose qui me saute aux yeux, c'est vraiment sa fidélité dans son travail. Si on regarde au niveau du verset 5, donc, lorsque ceux qui ont conspiré, on va dire, et qui essaient de faire tomber Daniel, ont cherché un motif à le faire tomber, il est dit dans le verset 5, « Mais ils ne purent découvrir aucun motif d'accusation ni aucune faute, car il était fidèle, de sorte qu'on ne pouvait trouver en lui ni négligence ni faute. » Et là, on peut se dire, voilà, alors que Daniel avait quand même une position qui était très importante, il était très proche du roi, dans la politique, donc on sait que la politique a beaucoup de rivalités, de conflits, de jalousies qui pourraient se faire. Et pourtant, malgré tout ça, il est toujours resté en fait fidèle dans les tâches qui lui ont été données. On aurait aussi pu se dire, mais Daniel, il aurait pu prendre la grosse tête en se disant, ben voilà, merci Seigneur, j'ai été nommé si proche du roi, j'ai une telle fonction, ben j'aurais pu en profiter pour faire passer peut-être mes intérêts avant les intérêts du roi, pour essayer aussi de faire comme les autres, faire de la corruption ou tricher sur les impôts. Mais pourtant, il est dit dans le texte qu'à aucun moment il a fauté et à aucun moment il a fait quelque chose de mal envers le roi. Il est resté incorruptible et il n'a fait aucun compromis. Et je pense vraiment aussi que dans son service pour le roi, Daniel, il était aussi Mais en fait, il servait le roi, mais il servait aussi Dieu à travers son service pour le roi. Et il était convaincu, en fait, que c'était bon de faire ça, parce qu'il voulait rester fidèle aussi à où est-ce que Dieu l'avait emmené, où est-ce que Dieu l'avait amené de servir. En fait, il a été déraciné à sa culture, mais il était peut-être à un endroit où Dieu voulait qu'il soit, et c'est pour ça qu'il a continué d'être fidèle. Et puis, finalement, à défaut de trouver une manière de faire tomber Daniel, au verset 6, il est dit « Nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins que ce soit en relation avec la loi de son Dieu. » Et là, j'ai trouvé ça aussi intéressant, le fait que, finalement, la seule faiblesse qu'il a, Daniel, c'est qu'il est tellement irréprochable dans son travail que la seule manière de réussir à le faire tomber, c'est sa relation avec Dieu. Et ça, c'est clairement méconnaître aussi notre Dieu, à quel point il est puissant et à quel point il peut changer les choses, mais c'est vraiment méconnaître notre relation avec Dieu. Et en lisant vraiment ce passage, je me disais, mais est-ce que nous-mêmes, dans nos vies de tous les jours, ça peut être au travail, ça peut être aussi ailleurs, est-ce qu'on est toujours aussi fidèle? Est-ce qu'on est comme ce Daniel, malgré les circonstances, malgré les choses qui pourraient se passer, est-ce qu'on continue d'être fidèle dans ce que Dieu nous appelle à faire? Et puis, j'ai un témoignage aussi par rapport à ça. Dans mon travail, j'ai été une fois confronté où même j'étais déstabilisé par la situation, parce que dans mon travail, en tout cas, on a des dossiers en fait à traiter, et puis on doit en fait se répartir les dossiers par rapport à un tableau, et puis du coup, chaque jour, c'est une personne qui répartit les dossiers, et puis on le fait dans l'ordre chronologique. Et une fois, un collègue est venu vers moi et il m'a dit « Ah, mais tu pourrais pas me passer un dossier facile ou bien pas un truc trop difficile à faire ?» Et puis il voulait en fait que je lui fasse un peu du favoritisme et que je lui donne des dossiers faciles à faire. Et puis j'ai été juste déjà un peu étonné en disant « Mais pourquoi est-ce que tu me demandes ça ?» Et puis, en fait, je lui ai dit « Mais moi, je fais pas de favoritisme entre mes collègues de travail et je vais juste répartir les dossiers dans l'ordre chronologique. » Et c'est vrai que voilà, c'est juste un mini témoignage. Je lui ai dit non. Et je lui ai dit, non, je vais continuer à faire mon travail comme je dois bien le faire. Et puis, j'ai été vraiment étonné parce qu'en fait, ça arrive. En fait, dans notre travail, même dans nos actes au quotidien, on peut être amené à des personnes qui peuvent nous demander de faire des choses un peu par derrière ou bien de ne pas faire les choses correctement. Et très vite, on peut se montrer peut-être infidèle dans les choses que Dieu nous demande de faire. Et je crois que Daniel, c'est vraiment ce témoignage de cette personne qui, malgré tout, est toujours restée fidèle dans sa relation avec Dieu. Et puis, la question aussi qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on est tellement fidèle dans notre travail ou dans nos actes au quotidien que finalement, si des personnes essaient de nous attaquer, de nous faire tomber, la seule chose qu'ils pourraient faire, c'est finalement s'attaquer à notre relation avec Dieu. Et finalement, je trouve ça beau le fait de savoir que finalement, notre faiblesse, ce serait notre relation avec Dieu, parce que finalement, c'est vraiment notre force. Et c'est de là, en fait, qu'on peut puiser toute notre énergie pour ne pas être déstabilisé. Mais je crois vraiment qu'à ce niveau-là, Daniel est vraiment un exemple de puiser vraiment sa force dans sa relation avec Dieu. Et plus tard, un autre élément qui ressortait du texte, c'est sa constance dans les circonstances, le fait qu'il est toujours resté persévérant. Et là, c'est au verset 11, quand il est dit quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison. Les fenêtres de sa chambre haute étaient ouvertes en direction de Jérusalem. Trois fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant. Et là, c'est aussi étonnant parce qu'on pourrait se dire, mais Daniel, il n'a pas le droit de prier. Il sait très bien que le fait de prier son Dieu, ça va le mettre en péril. Et pourtant, il va continuer à prier son Dieu et faire tout comme d'habitude, en fait. Il ne va même pas changer peut-être sa manière de prier. Alors, dans le texte, on ne sait pas vraiment pourquoi est-ce qu'il prie. Suivant les versions, il est dit, il prie, il loue son Dieu, ou il exprime sa reconnaissance. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on peut retenir, c'est vraiment que Daniel fait vraiment passer son Dieu avant la loi des Mèdes, avant ce décret qui a été signé, et qui cherchait vraiment en fait, à le nuire. Et on voit vraiment que Daniel, il ne se laisse pas désarçonné par les circonstances, mais il va vraiment continuer de prier, continuer d'avoir sa relation avec Dieu. Et il fait confiance à Dieu malgré ce qui se trame. Et je pense qu'il était très au courant finalement. Ça fait plus de 60 ans qu'il sert le roi, donc je pense qu'il a peut-être vu de la corruption, des tricheries qui se sont passées lorsqu'il servait son roi. Et puis là, il est directement visé par ce décret, mais pourtant, il continue d'avoir la confiance dans son Dieu. Et puis, il y a des éléments qui m'interpellaient, c'est d'ailleurs les éléments que j'ai soulignés dans le texte, c'est qu'il va continuer en fait, de prier, comme à son habitude, mais il va laisser les fenêtres ouvertes. Donc, il ne va pas du tout chercher en fait, à se cacher. On pourrait dire, oui, prier, ça me met en péril, mais je vais quand même, voilà, je vais quand même continuer de prier mon Dieu parce que je sais que c'est bien, mais je vais le faire en cachette, ou bien je vais fermer la porte. Ou bien... En fait, pas du tout. Il va continuer de prier, laisser les fenêtres ouvertes, et puis il va aussi se mettre à genoux. Et c'est vrai qu'à cette époque, prier, c'était plutôt... L'habitude, c'était plutôt de prier debout, en fait. Et là, en fait, il le fait à genoux, et ça montre vraiment la relation qu'il avait avec Dieu, sa dépendance et son humilité envers Dieu. Il y a très peu aussi de passages dans la Bible où, à cette époque-là, les gens priaient à genoux. Donc, quand ils priaient à genoux, ça montrait vraiment une dépendance et une relation très forte, en fait, avec Dieu. Et on pourrait se dire, nous, à la place de Daniel, comment est-ce qu'on aurait réagi ? Est-ce qu'on aurait continué de prier Dieu ? Est-ce qu'on aurait violé l'interdiction ? Ou bien est-ce qu'on aurait juste... On l'aurait fait peut-être de manière cachée. On peut vraiment se poser la question, mais comment est-ce que j'aurais fait moi, à la place de Daniel ? Est-ce que j'aurais continué d'être persévérant dans la prière ? Est-ce que j'aurais été déstabilisé par les circonstances ? Et là, on a vraiment ce modèle de Daniel qui nous dit de continuer à le faire confiance en tout temps, que ce soit dans des bonnes ou des mauvaises circonstances, on peut vraiment lui faire confiance. Et puis, toujours sur cette notion de prière, il y avait aussi, dans sa manière de prier, donc déjà, il est noté... Donc toujours dans ce verset 11, qu'il prie trois fois par jour. Donc ça, c'était l'habitude juive de prier trois fois par jour. Mais dans son positionnement, il prie en direction de Jérusalem. Et je vous l'ai dit donc juste avant, donc ça fait 60 ans que la ville de Jérusalem a été détruite, qu'il n'y a plus de temple. Et pourtant, Daniel continue de prier en direction de cette ville et en direction de ce temple. Et ce qui est intéressant, c'est que le temple, à cette époque, ça représentait vraiment la présence de Dieu, la vie spirituelle. Et puis, malgré tout, il continue de prier envers ce temple qui n'existe plus. Et on voyait vraiment cette image peut-être symbolique que Daniel, finalement, il puise et il continue de puiser sa force dans sa relation avec Dieu. Et peut-être que... Alors, on ne sait pas pourquoi il priait. Peut-être qu'il priait pour pouvoir peut-être retourner dans sa patrie, ou peut-être prier pour que le temple soit reconstruit, que la ville soit reconstruite. Mais voilà, je ne pense pas que c'est important de savoir vraiment pourquoi est-ce qu'il priait, mais il avait vraiment le regard qui était tourné sur Dieu. Et moi, je prie vraiment qu'on puisse aussi, nous, avoir dans nos circonstances de vie, qu'on puisse vraiment avoir ce regard qui est tourné sur Dieu et croire vraiment que ce n'est pas peut-être les circonstances ou les personnes qui sont autour de nous qui vont nous aider dans les difficultés, mais c'est vraiment notre relation avec Dieu. Et puis, pour illustrer vraiment cette volonté d'avoir le regard qui est tourné sur Dieu, ça fait vraiment référence à un passage que j'ai mis là, dont 1 Roi 8, 46 à 53. Donc, lorsque le temple, si on revient en arrière, lorsque le temple à Jérusalem a été construit, Salomon, au moment de l'inauguration, il a fait une prière à Dieu et il a prié en fait que toutes les personnes donc, du peuple de Dieu qui seraient peut-être à un moment donné menés en exil, qui seraient déportés hors de leur patrie, qui pourraient continuer en fait à avoir leur relation avec Dieu en se tournant vers Jérusalem et en se tournant particulièrement par rapport à ce temple. Et il a demandé en fait à Dieu à ce que le peuple de Dieu, lorsqu'il va peut-être prier pour se repentir, que Dieu puisse les regarder avec compassion lorsqu'ils prieront en direction de ce temple. Et je vais juste vous lire le passage dont 1 Roi 8, 46 à 53. Donc on fait référence au peuple de Dieu qui serait en exil. « S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de tout leur être, dans le pays des ennemis qui les auront déportés, et s'ils te prient en se tournant vers le pays que tu as donné à leurs ancêtres, vers la ville que tu as choisie et vers le temple que j'ai construit en ton honneur, alors depuis le ciel, la demeure où tu habites, veuille écouter leurs prières et leurs supplications et défendre leur cause. » Et en voyant vraiment cette attitude, ce positionnement de prier en direction du temple, on pourrait aussi nous dire, mais nous-mêmes, dans nos vies, quand on est face à une difficulté, est-ce qu'on va directement se tourner vers Dieu ou est-ce qu'on va se tourner vers autre chose, peut-être vers, des personnes ou bien peut-être on va juste se laisser mourir à petit feu ou être juste... découragé par les circonstances, ou est-ce qu'on va chercher véritablement notre force vers Dieu, dans notre relation avec Dieu, et puis est-ce qu'on va chercher notre aide vers lui, en fait? Et ça nous met vraiment en question par rapport à... Je pense qu'on est tous confrontés des fois à des difficultés dans nos vies, et se dire, mais quelle est mon attitude, moi, lorsque je suis confronté à ça? Est-ce que je suis une personne qui est fidèle, et je vais continuer à prier mon Dieu, à croire qu'il va pouvoir intervenir dans ma situation? Voilà. Et puis un autre élément que je trouvais aussi intéressant, c'est le fait que Darius va essayer par tous les moyens de sauver Daniel parce qu'il l'aimait beaucoup, et il ne va pas réussir. Et au moment où il va être condamné dans la fosse aux lions, il va lui dire, donc c'est au verset 17, il est dit, « Puisse ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance te délivrer lui-même. » Et ce qui est intéressant, c'est que le roi n'est pas du tout croyant, et pourtant, il a tellement vu Daniel peut-être être persévérant dans sa relation avec Dieu qu'il a comme un espoir que son Dieu pourra le sauver. Et je trouve que c'est vraiment aussi un témoignage devant des personnes qui ne sont peut-être même pas chrétiennes, de dire, mais en fait, non seulement il avait cette intimité avec Dieu, mais ça transparaissait aussi au niveau des autres. Tout le monde voyait en fait qu'il avait une relation particulière avec son Dieu. Et moi, je prie vraiment aussi qu'on puisse aspirer à avoir cette même vie de prière qui est simplement, pas simplement dans notre relation qu'on a avec Dieu, mais ça se transparaît aussi chez les autres. Et puis les autres sont même peut-être touchés ou pensent que Dieu va intervenir parce qu'on est convaincu que c'est notre Dieu et qu'il va pouvoir nous sauver dans les situations qui ne seront peut-être pas forcément évidentes. Et puis la finalité du texte, donc c'est le fait que Daniel va être sauvé. Et là, c'est le passage donc, au verset 22 et 23, où donc le roi, il ne va pas dormir de la nuit, il va être angoissé par rapport à son Daniel. Et puis, dès le lendemain matin, il va directement aller le voir pour voir s'il est toujours en vie ou pas. Donc, ça montre déjà qu'il avait aussi un espoir que peut-être Daniel ne serait pas dévoré par les lions. Et puis, lorsqu'il va dire « Daniel, est-ce que tu es là ? Est-ce que tu es là ?» Daniel va lui répondre « Ô Majesté, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions de sorte qu'ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été reconnu innocent devant lui, tout comme je n'ai pas commis de faute envers toi, Majesté. » Et ça, c'est vraiment la finalité de qu'est-ce que c'est être fidèle envers Dieu, parce que là, on voit que Daniel a été fidèle jusqu'au bout, il aurait pu mourir pour son Dieu, et Dieu est intervenu et l'a justifié en fait. Il l'a justifié parce que finalement, Daniel était innocent, il n'a commis aucune erreur devant son Dieu, et puis il a aussi commis aucune faute devant son roi. Et je trouve belle cette image de dire finalement que Dieu va toujours en fait nous justifier lorsqu'on sera fidèle jusqu'au bout en fait. Et dans cette idée de justifier Daniel, je voyais vraiment aussi cette idée que Dieu va aussi chercher à rétablir la vérité. Il a été comme embrigadé dans un complot, il ne pouvait rien faire, il était dans une situation qui était profondément injuste. Et pourtant, Dieu va permettre qu'il soit juste innocenté à la vue de tous, non seulement devant Dieu, mais aussi devant le roi. Et puis on pourrait se demander, mais finalement, Daniel, il a quand même violé le décret, parce que il a fait quelque chose qui n'était pas juste au niveau de la loi des Perses et des Mèdes. Mais je crois vraiment en fait que à partir du moment où le décret il était mensonger, il était tordu dès le départ, et puis il était injuste parce qu'il empêchait Daniel d'avoir sa relation avec Dieu. Je crois vraiment que Dieu l'a, comment dire, Dieu l'a honoré et a permis qu'il ne soit pas dévoré par les lions. Et en faisant passer finalement la loi de Dieu avant la loi des Perses et des Mèdes, Dieu l'a honoré, et c'est ce qu'on va voir plus tard. J'aimerais juste revenir ensuite sur cette notion d'intervention de Dieu. Des fois, quand on prie notre Dieu, on est tellement focalisé peut-être sur les circonstances ou bien sur les choses qui se passent qu'on ne voit pas que Dieu il intervient. Et là, Dieu il intervient, et je trouvais aussi intéressant de souligner dans le texte les éléments qui prouvent en fait que c'est Dieu qui est intervenu et ce n'est pas simplement le hasard ou bien oui, j'ai été sauvé et puis voilà, c'est peut-être pas Dieu, c'est peut-être autre chose qui a fait que. Le premier élément qui ressort vraiment dans le texte, c'est au verset 18 où il est dit « Une pierre est mise devant l'entrée de la fosse, un sceau y est apposé avec l'anneau du roi et ceux des hauts dignitaires, afin que rien ne peut être changé aux dispositions prises à l'égard de Daniel. » Donc là, on a vraiment un élément qui prouve qu'en fait, à aucun moment, Daniel pouvait s'enfuir. Il n'y avait aucune issue qui était possible. Il y avait ce trou de fosse qui a été refermé, mais en fait, à aucun moment, il pouvait réussir à s'enfuir de quelconque manière. Il a aussi été remonté de la fosse, donc ça prouve qu'il n'y avait pas peut-être une porte de sortie ailleurs dans la grotte ou bien un autre moyen qu'il aurait pu prendre pour s'échapper. Il a aussi dit au verset 24 qu'il n'avait aucune blessure. Donc on pourrait croire aussi, dans notre raisonnement humain, ah oui, peut-être que Daniel, il a combattu les lions et puis il s'est protégé, il a réussi à survivre. Mais en fait, à aucun moment, il a des blessures. Donc ça prouve finalement que c'est juste Dieu qui est intervenu, qui a fermé la gueule des lions et voilà quoi. C'est pas par ses propres forces qu'il a réussi en fait à être sauvé de la gueule des lions. Et puis, l'autre élément, c'est au verset 25. Donc Darius, il va ensuite sortir Daniel de la fosse aux lions et puis il va condamner les personnes qui ont voulu faire ce complot contre Daniel et avec leur famille, ils sont à leur tour plongés dans la fosse aux lions. Et il est dit au verset 25, ils n'avaient pas atteint le sol de la fosse que déjà les lions s'emparèrent d'eux et leur broyèrent les os. Et ça montre vraiment l'intervention de Dieu parce qu'à aucun moment, quand Daniel il était dans la fosse, on peut se dire, oui, les lions ils étaient malades ou bien ils n'avaient pas faim. Ou on les avait nourris juste avant, donc voilà, c'est normal que Daniel, il est pas mort, quoi. Non, en fait, ça montre vraiment que Dieu est intervenu, et puis ensuite, il a retiré son ange de la fosse, et puis les personnes sont mortes, en fait, dans cette fosse. Et puis, en conclusion, je dirais, en fait, simplement que des fois, c'est difficile de faire la volonté de Dieu, le fait d'être fidèle dans ce qu'il nous appelle à faire, donc ça peut être... dans ce que Daniel faisait au niveau de son travail, mais ça peut être aussi dans nos actes au quotidien. Des fois, ce n'est pas évident, parce que si on se montre fidèle, ça peut des fois peut-être attirer des ennuis, attirer des jalousies. Mais je crois vraiment que le message à retenir en fait, de ce passage, c'est que lorsqu'on est fidèle à Dieu, Dieu va toujours nous récompenser et Dieu va toujours nous aider à traverser les épreuves. Et c'est ça, donc Dieu va toujours récompenser les personnes qui le servent avec persévérance et avec fidélité. Et Daniel est vraiment cet exemple-là. Si on se rappelle par rapport à la notion de fidélité que j'avais développée juste avant, il y a cette idée de dévouement et cette idée de attachement. Et pour le coup, Daniel, il coche vraiment les deux cases parce qu'à la fois, il était dévoué pour son roi dans toutes les affaires qu'il avait à traiter pour lui. Et puis de l'autre côté, il continuait en fait à être attaché à Dieu malgré les circonstances et malgré le décret qui l'interdisait en fait d'avoir cette relation avec Dieu. Et puis Dieu va le récompenser parce qu'il est noté au verset 29, donc c'est plus loin par rapport au passage qu'on a vu. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Et on voit vraiment que non seulement Dieu est intervenu pour sauver Daniel de la fosse aux lions, mais également Dieu va le récompenser par rapport à ce qu'il fait. Donc déjà depuis le début du chapitre de Daniel, on voyait que à chaque fois que Daniel s'est montré fidèle, il a gradé, il a reçu davantage de responsabilités. Et là c'est vraiment un peu, je ne sais pas si on peut dire que c'est l'apothéose, mais le fait que Daniel finalement il va continuer de prospérer. Et je pense que si on est fidèle avec Dieu, il va aussi nous récompenser par rapport à ça. Et puis, il y a aussi cette idée que peut-être qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que Daniel il a vécu, pourquoi est-ce que Daniel a été condamné à cette fosse aux lions, pourquoi est-ce que je traverse telle épreuve ou telle épreuve. Mais je crois vraiment en fait que des fois, on est tellement embrigadé dans nos circonstances qu'on ne voit pas ce que Dieu veut faire plus tard. Et dans le cas de Daniel, en fait, grâce à ce qu'il a vécu, ça va aussi permettre aussi à faire connaître son Dieu à tout le royaume, puisqu'il est dit par la suite qu'il va envoyer ensuite un décret à tout le royaume en disant « Ayez du respect pour le Dieu de Daniel ». Donc je pense que c'est aussi une manière que Dieu a utilisé cette épreuve pour se glorifier et pour se faire connaître aussi à plus de personnes. Et je trouve que c'est aussi beau de voir que Daniel finalement a été utilisé pour sa gloire. Et puis dans cette idée de récompense, je voulais juste repasser un extrait de vidéo donc, qui dit finalement, tout comme Dieu a justifié Daniel, c'est toujours le film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Pour ceux qui connaissent le film, il y a cette idée qu'il y a un palais qui doit construire et puis Et puis ensuite, il y a les Romains qui essayent en fait de déstabiliser la construction du temple, la construction du palais. Et puis, il y aura toutes des choses qui vont se passer. Et puis malgré tout, donc Numérobis, qui est l'architecte du palais, il va réussir à mener à bien la mission qui lui a été donnée par la reine Cléopâtre. Et puis, il va être récompensé par rapport à son travail. Et tout comme Daniel s'est montré fidèle à Dieu, Dieu l'a récompensé, ben, Numérobis va aussi être récompensé comme il s'est montré fidèle dans cette mission qui lui a été donnée. Et on va juste regarder l'extrait.
Voilà. On le couvre d'or.
Ouais, c'est ça qu'on avait prévu à la base. Comme un couvre d'or.
Voilà. Il est très court, mais c'est... Il se fait récompenser voilà, par de l'or. Et puis, voilà. J'aimerais juste finir le texte, la prédication avec trois questions qui permettent vraiment de nous examiner soi-même en disant, mais comment est-ce que je suis moi face à des circonstances comme peut-être, alors peut-être qu'on sera jamais on n'aura jamais à vivre, peut-être que Daniel a vécu, mais je pense qu'on a tous des difficultés, des fois des défis qu'on a à surmonter. Et la première question que j'aimerais vous poser à moi, mais aussi à vous, c'est est-ce que face aux circonstances, on est toujours dévoué à Dieu dans nos actions ? Là où Dieu nous appelle de le servir, est-ce qu'on va toujours être dévoué à Dieu ou est-ce que des fois on va, je sais pas, peut-être se montrer déstabilisé ? Est-ce qu'on peut avoir garder en tête ce modèle de Daniel qui est toujours resté fidèle au niveau des tâches qui lui ont été données ? La deuxième question, c'est est-ce que toujours face aux circonstances, est-ce qu'on... On est vraiment attaché à Dieu, peu importe ce qui se passe, est-ce qu'on sera toujours attaché à Dieu dans notre relation avec lui ? Est-ce qu'on aura toujours ce regard, tout comme Daniel avait ce regard qui était fixé en direction de Jérusalem et du Temple, est-ce que nous-mêmes, on a aussi toujours ce regard qui est fixé sur Dieu ? Ou est-ce qu'on, peut-être facilement, on pourrait se laisser déstabiliser par les circonstances ? Et puis, est-ce qu'on serait capable, comme Daniel, d'être fidèle à Dieu jusqu'au bout ? Jusqu'à ce moment où il a été condamné dans cette fosse. Alors, je ne sais pas si ça peut arriver, peut-être qu'on soit... Alors, je ne pense pas qu'en Suisse, la peine de mort est encore... non, elle n'est plus autorisée, mais en tout cas, est-ce qu'on serait capable d'aller comme Daniel jusqu'au bout de notre fidélité envers Dieu et vraiment lui faire confiance. Et je pense vraiment que c'est des questions qui sont intéressantes et qu'on pourrait vraiment continuer de méditer là-dessus pour notre vie de tous les jours. Et j'en ai terminé. Donc je prie vraiment qu'on puisse être encouragé à travers cet exemple de Daniel et puis se montrer toujours attaché à Dieu, dévoué à Dieu par rapport à ce qu'il nous demande de faire. Et voilà, que vous puissiez être encouragé par ce message.